Alors ce soir, on est avec l'Apocalypse encore. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit dimanche passé, c'est sur Internet aussi pour ceux qui veulent l'écouter. Mais ce soir, on est donc au chapitre 2 de l'Apocalypse, en nous souvenant que c'est un livre de bonnes nouvelles avant tout. Et c'est un livre qui doit nous amener à la paix et à la joie, plus qu'à l'angoisse, la tristesse, la peur et toutes ces choses. L'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ, et quand Jésus se révèle à nous, c'est pour nous dire « ne crains pas, crois seulement ». Et quand ce livre vient donc nous parler des choses à venir, eh bien on se souvient que ça commence premièrement avec le chapitre premier où les choses sont clairement établies, que c'est pour nous rendre heureux. Et le chapitre premier se termine donc avec Jésus qui est là, en train de marcher au milieu de sept chandeliers ayant sept étoiles dans sa main droite qui sont les anges de ces sept églises. Il est dit clairement, les sept chandeliers sont les sept églises. Et on apprécie quand dans l'Apocalypse, on a des correspondances qui sont clairement identifiées. Quand il est dit, les sept chandeliers sont les sept églises, on ne peut pas interpréter autrement. C'est marqué noir sur blanc. Qu'ici, ces chandeliers sont des églises. Et justement, à partir du chapitre 2, on a eh bien, une première église, ensuite une deuxième, ensuite une troisième, et on a les sept églises qui sont ici, les sept messages, ou les sept lettres, les sept épîtres, qui sont envoyées aux sept églises de l'Apocalypse. Maintenant, ça correspond à quoi ces sept églises? Alors, je sais qu'il y a peut-être plusieurs façons de voir les choses, mais déjà, avant tout, il faut voir les choses comme elles sont au départ. Avant d'aller dans des théories mystiques ou d'aller dans un deuxième, troisième, quatrième degré, lisons-le déjà au premier degré. Et comprenons qu'ici, il s'agit de sept lettres qui sont envoyées à cette église au temps de l'apôtre Jean. Et que de la même manière que quand on lit l'épître aux Corinthiens, on se doute bien que l'apôtre Paul est en train d'écrire à la ville de Corinthe. On ne se dit pas, ah non, il n'écrivait pas à Corinthe, en fait, il écrivait aux Québécois. Oui, il parle aussi aux Québécois lorsqu'il écrit à Corinthe, mais premièrement, l'épître est envoyé à la ville de Corinthe. Et il y a quelque chose qui connecte avec cette ville-là. De la même manière que quand l'apôtre Paul écrit à Rome, aux Romains, dans cette épître, il y a des choses pour nous, mais premièrement, c'est pour eux. Et nous lisons une lettre qui était destinée aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Philippiens, aux Colossiens, ainsi de suite. Et ici, on a la même chose. On a sept villes qui sont des villes réelles. On n'est pas là dans des villes symboliques. Les villes existent vraiment. On peut les retrouver sur une carte. Et on voit même que dans le contenu de ces épîtres-là, on fait référence à des contextes qui correspondent réellement à ces églises. Quand on écrit, il y a dans chacune des lettres, eh bien, des références où on est capable, et on l'avait fait dans une série il y a quelques années à l'église de Pentecôte, la série est toujours sur Internet, je crois, oui, et on est capable de connecter avec le contenu des épîtres en disant, oui, ça correspond au temple de Diane des Éphésiens, ou ça correspond à cette source qui pouvait y avoir d'eau tiède, qui pouvait y avoir dans cette ville. Ah oui, ça fait effectivement référence à telle ou telle chose qui existe vraiment dans la ville. Donc on comprend que l'épître est vraiment connecté avec une ville qui existe et avec des premiers lecteurs qui sont clairement identifiés. Maintenant, comme l'Apocalypse est un livre peut-être un peu spécial et prophétique, on a tendance, en lisant l'Apocalypse, à oublier que c'était sept lettres qui sont vraiment parties à cette église, mais que ça pourrait avoir un autre sens. Et que cet autre sens pourrait, et certains vont parler de chronologie en disant que les sept églises pourraient être les sept phases ou les sept stades un petit peu que l'église peut avoir au cours des siècles et que la première église serait celle de l'église du départ, donc l'église primitive, et ainsi de suite, on avancerait, puis que nous, du coup, on serait concernés par la dernière de ces églises-là. Maintenant, rien dans le texte nous dit que c'est ça. Et cette lecture-là est une hypothèse, et on comprend qu'il y a une inspiration dans le livre de Daniel, où Nebuchadnezzar avait eu cette vision, vous savez, cette vision d'une statue où il y avait différentes strates dans cette statue. Il y avait du bronze, il y avait du fer, et on comprenait que dans cette vision, chaque morceau correspondait effectivement à des royaumes qui allaient se succéder, et donc chaque élément correspondait à chaque phase ou chaque étape de l'histoire de cette grande civilisation. Et donc, du coup, on applique un petit peu ce principe ici aux sept églises de l'Apocalypse pour dire, c'est peut-être ça un petit peu aussi. Mais cette hypothèse ou cette théorie ou cette façon de voir peut, dans certains cas, dire des choses intéressantes, puis dans d'autres cas, on va dire, il y a des choses qui ne marchent pas. Personnellement, et puis vous allez voir que c'est ce qu'on va faire, je vais vous inviter à le faire tout au long de la lecture de l'Apocalypse, il faut qu'on apprenne l'humilité. Et l'humilité, c'est lire le texte en reconnaissant qu'on ne comprend pas forcément tout et qu'on ne cherche pas à donner une explication à tout. Et ça devient assez prétentieux quelque part lorsqu'on veut tout expliquer, surtout quand il n'y a pas d'explication. Maintenant, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que ce texte n'a rien à nous dire. Maintenant, personnellement, je ne suis pas vraiment dans cette approche chronologique et historique avec ces sept églises. Déjà, c'est sept églises qui existent vraiment. Et le contenu qui est donné à chacune de ces églises correspond à ce qu'ils sont en train de vivre eux-mêmes. Quand il est question des Nicolaïtes, on n'a pas de Nicolaïtes à Drummondville. Non ? De cette secte des Nicolaïtes qui viennent avec une doctrine, celle des Nicolaïtes, où quand il est question du gnosticisme, donc avec les Nicolaïtes et puis d'autres, on voit qu'il y a des problèmes de doctrine qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Alors, comment on fait avec un texte comme ça ? De la même manière que quand on lit Romains, de la même manière que quand on lit Corinthiens, de la même manière que quand on va lire Éphésiens et d'autres épîtres. Il y a un moment donné, par exemple, dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul insiste sur la communion fraternelle entre les juifs et les non-juifs. Je veux dire, nous, est-ce qu'il y en a qui sont juifs ici ? Ça ne nous concerne pas alors. Quand il est question de ce mur de séparation qui a été brisé et puis que Christ est venu là, donc réconcilier, puis arriver. Alors, on comprend qu'il y avait quelque chose qui était très clair pour les Éphésiens, mais pour nous, aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de rapport direct entre juifs et non-juifs pour nous, aujourd'hui, qu'on ne peut pas comprendre les principes de la relation fraternelle. Et de dire que même si tu n'es pas juif, si tu es différent, si tu es étranger, si tu es d'une autre culture, si tu es loin des promesses de Dieu et puis que tu viens de découvrir la foi, on va appliquer certains principes et les associer dans notre Église. De la même manière, on voit ça un petit peu dans la plupart des épîtres, il y a des choses qui pourraient être très contextuelles, mais on est capable de prendre le principe de ce qui est écrit et de dire... quand il est question de viande sacrifiée aux idoles, et que des fois ça pouvait poser un problème, ceux qui mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles et ceux qui n'en mangeaient pas. Est-ce que vous posez la question quand vous allez à l'épicerie en disant est-ce que cette viande a été sacrifiée aux idoles ? Est-ce qu'il y a eu un rite vaudou avant chez le boucher ? On ne se pose pas la question ici à Drummondville, mais eux se posaient la question. Et on comprend que dans l'épître, on va adresser et puis ça va vraiment correspondre à leur situation. Mais ce n'est pas parce que nous, on ne vit pas la même chose, qu'il n'y a pas des principes de tolérance, des principes spirituels, des principes de liberté, qui sont écrits dans cette épître qui nous concernent aujourd'hui encore. Et c'est pareil avec ces sept épîtres, puisque ce sont des lettres, ces sept épîtres de l'Apocalypse. Ce sont des épîtres qui, premièrement, sont écrits dans un contexte spécial à des gens bien précis, pour eux, pour ce qu'ils sont en train de vivre au moment présent où l'épître leur est écrite, mais qu'au travers de cette lecture, puisque le texte nous est parvenu à nous et ce n'est pas par hasard qu'on a ce texte entre les mains, eh bien, au travers de ces épîtres-là, il y a un message pour nous. Ce qui est un petit peu une faiblesse de l'approche chronologique par rapport aux épîtres, c'est de dire les six premières ne nous concernent pas, même pas la peine de les lire, ça ne nous concerne pas. Bon, juste peut-être pour savoir un petit peu eux ce qu'ils ont vécu. Non, on est capable de vivre la même chose qu'eux. L'apôtre Paul dit concernant l'Ancien Testament, il dit, bon, ce n'est pas juste des vieilleries, des vieilles histoires. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit l'histoire de l'Exode, quand on lit toutes ces choses, on ne dit pas, oh, c'est une histoire, on va raconter une histoire, on va vous raconter une histoire. Non, on ne raconte pas d'histoire en lisant l'Ancien Testament, mais on apprend de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, du pardon, on apprend des erreurs des autres aussi. Et au travers de la vie des autres, eh bien, on apprend pour notre propre vie. Et de la même manière, en lisant les sept épîtres des églises de l'Apocalypse, eh bien, au travers de ce qui est dit, des avertissements aussi, parce qu'il y a des avertissements qui sont donnés ici, des mises en garde qui sont données à ces églises-là, eh bien, il y a peut-être quelque chose pour nous aussi. Et quand il est dit à Éphèse, c'est la première ville à laquelle eh bien, une épître est donnée, donc on est dans Apocalypse chapitre 2, par exemple, verset 2, quand il est dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. » C'est tout à fait nous, ça. Hein? Non? Vous ne vous reconnaissez pas, là? Non, presque. Il dit, mais il y a un mais. Et on veut bien, le début, en disant, oh oui, nous aussi, on a fait tout ça, alléluia, on est bon. Mais il y a un mais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On dit, oh, ça se fout, c'est pas pour nous, c'est pour les Éphésiens. Rendez compte, ils ont abandonné le premier amour. Eux, oh les méchants. Est-ce que nous, on pourrait être capable de faire ce genre de choses? Et on comprend que même si cette épître ne nous est pas directement écrite, à nous, adressée, elle a quelque chose à nous dire pareil. Et que si Jésus peut dire à cette église, j'ai quelque chose contre toi, il pourrait peut-être le dire à notre église aussi. J'ai quelque chose contre toi. Il y a quelque chose qui ne marche pas entre nous. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et on comprend que même si cette lettre ne nous est pas adressée premièrement, eh bien, elle va venir, normalement, bousculer quelque chose en nous et de dire où j'en suis par rapport à mon premier amour. Est-ce que moi, je serais capable d'abandonner? Il y a une différence entre perdre et abandonner. Hein? Si vous perdez votre chien dans la forêt ou si vous l'abandonnez dans la forêt, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous comprenez que la sémantique est importante ici. Abandonner son premier amour, c'est comme si volontairement, même si c'est de la négligence, ben quand on ne fait rien, on est responsable, eh bien, on abandonne son premier amour. Et Jésus dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Et il y a un appel à la repentance qui est là dans quasiment, dans presque toutes sauf une, eh bien, des lettres, des épîtres de l'Apocalypse, un appel à la repentance qui est là, en disant, souviens-toi et repens-toi. Et si Jésus dit cela aux églises à l'époque de Jean, il n'est pas en train d'écrire aux églises de l'avenir, mais on est dans le passé ici. Mais ce qui est vrai à cette époque-là, l'est pour nous aujourd'hui. Et que de la même manière que Jésus peut reprendre cette église qui a abandonné son premier amour, nous aussi, on peut être concerné par ce genre de fléau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Repens-toi. Repens-toi et reviens. Et il est donc possible de corriger ce problème. Et si nous sentons concernés en disant on a le même genre de problème, il faut le corriger. Parce qu'il y a une menace qui est là. Il est dit, reprends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier, donc cette lumière qui brille, qui est l'Église, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et il est dit au verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et vous comprenez qu'au travers de cette phrase, nous sommes invités, nous, à entendre ce qui est dit aux autres. Parce qu'au travers de ce qui est dit aux autres, il y a quelque chose pour nous. Alors, la représentation spirituelle, il y a aussi un encouragement. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc on comprend que ça vaut la peine de combattre, de se battre et de vaincre. Parce qu'il y a une récompense qui est associée. Donc ça, c'est la première église. Je passe assez vite sur les églises volontairement, parce qu'il y a encore pas mal de stock dans le reste de l'Apocalypse. La deuxième église, c'est celle de Smyrne. Elle dit, voilà ce que dit le premier et le dernier. Jésus s'était déjà présenté ainsi dans le premier chapitre. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. On voit donc qu'il y a ici une persécution de la part des juifs envers les chrétiens, persécution donc religieuse. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et là, dans cette épître-là, c'est un encouragement qui est donné dans une église qui passe par des temps difficiles, où il y a une souffrance, où il y a une persécution de la part des juifs et de la part du diable qui va jeter quelques-uns en prison, mais il y a un encouragement, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Et on comprend que la seconde mort, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort éternelle ici, dont il est question. La troisième lettre, elle est adressée à l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voilà ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais que tu demeures, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Est-ce qu'il faut le prendre au sens littéral, en disant est-ce que Satan habite là et pas ailleurs? On l'a vu ailleurs aussi, puisqu'il était dans l'église d'avant en train de jeter quelques-uns en prison. Donc comprenez que ce n'est pas juste un endroit ici proprement dit, sachant que le diable n'est pas omniprésent non plus, mais que vraisemblablement ici dans cette ville, il y a des manifestations diaboliques particulières où le trône parle ici d'autorité, de gouvernance et de roi quelque part. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Et là, on voit que ça fait référence à quelque chose qui nous échappe. On n'était pas là, nous, au jour d'Antipas, mais ça fait référence à quelque chose de très concret. Ils sont passés par là. Il y a eu une persécution spéciale à cette époque-là. Et même à cause, même si les chrétiens étaient persécutés, ils n'ont pas renié leur foi. Mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et on comprend qu'au moment où Jean écrit ça, on est dans une époque de grande persécution contre les chrétiens. Et donc il n'y a rien de surprenant qu'il y ait ce genre de martyrs à cette époque-là. Sachant qu'on dit à cette époque-là, mais il y en a aujourd'hui encore. Hein. Peut-être pas au Québec, peut-être pas à Drummondville, mais on en a parlé il y a quelque temps. Il y a des pays où les chrétiens sont encore persécutés et mis à mort. Mais j'ai quelque chose contre toi, et on retrouve un peu ce même principe. C'est comme si cette lettre écrite en disant « Je connais, je sais, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. C'est la deuxième fois qu'on parle des Nicolaïtes. C'est vraiment le problème à cette époque-là. Et repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il en était question au chapitre 1. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Et on est évidemment ici dans un texte qui est donné à cette église, particulièrement à Pergame. On voit qu'il y a des problèmes de viande sacrifiée aux idoles. On a une référence à Balaam, mais ce n'est pas la seule fois que dans l'Apocalypse on va parler de Balaam. Donc il va falloir se souvenir un petit peu de c'est quoi, de cette doctrine de Balaam. Mais cette doctrine de Balaam, c'est un mélange entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. C'est en fait, tout en se disant prophète et tout en ayant un discours religieux, eh bien, on va faire le contraire de ce que Dieu dit en mettant de l'impureté, de la souillure à l'intérieur de ce qui est saint. Et en particulier, eh bien, bon, ici, il fait référence aux viandes sacrifiées aux idoles. À l'époque de Balaam, c'était d'aller chercher des filles qui étaient en dehors du peuple d'Israël et d'avoir comme ça des mélanges et de quelque part souiller, corrompre, eh bien, ce qui était saint au départ. Et ce genre de doctrine, et comprenez, quand on parle de doctrine, on parle de théologie, on parle d'enseignement, de discours qu'il peut y avoir dans une église. Et ce principe-là qui existe à cette époque-là peut encore exister aujourd'hui dans nos églises. Et il faut qu'on fasse attention à ce genre de doctrine. L'apôtre Paul va même parler de doctrine de démons. Les démons font de la théologie. Ils sont capables de venir présenter quelque chose qui apparemment semble juste, correct, biblique, mais qui ne l'est pas du tout. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Vous trouvez quelqu'un qui va vous dire « la Bible dit que », pour l'instant, tout est beau, sauf qu'après, il dit quelque chose qui n'a rien à voir avec la Bible. Et on a des prophètes, et il était question avec Éphèse des faux apôtres, on a des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, des gens qui viennent avec toutes sortes de discours qui ont une apparence de sainteté, mais qui ne le sont pas du tout. Et c'est le cas de Balaam, qui amène une doctrine de corruption et qui finalement détourne, parce que c'est ce qui s'est passé avec Balaam, qui détourne le peuple de Dieu de son objectif et qui, au lieu d'amener la bénédiction, amène une malédiction. Et ici, le Seigneur dit à l'église de Pergame, j'ai contre toi qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça et puis tu laisses faire. Et tu n'as pas l'air d'agir et d'intervenir dans cette situation-là. Et on comprend que ce n'est pas juste, même si on va dire, ah ben, ça correspond peut-être à une certaine époque, ça fonctionnait comme ça, mais aujourd'hui encore, ça peut fonctionner pour nous comme ça. Et c'est important d'entendre les avertissements, de se repentir, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je te combattrai. Et on ne veut pas que le Seigneur vienne nous combattre, on veut qu'il vienne nous assister. Et on ne veut pas qu'il ait quelque chose contre nous, mais qu'il soit avec nous. On préfère que le Seigneur soit avec nous plutôt qu'il soit contre nous. Et on voit que le remède, à chaque fois que le Seigneur dit « j'ai quelque chose contre toi », le remède pour qu'il n'ait plus quelque chose contre nous, c'est la repentance. Et c'est en confessant sa faute, et c'est en se repentant, eh bien, qu'on peut changer cette donne, que le Seigneur ne soit plus contre nous, mais qu'il soit au contraire avec nous. Que celui qui a des oreilles entende. Et évidemment ici, quand il est question de la manne cachée, on se pose toutes sortes de questions. C'est quoi cette manne cachée? La manne, vous savez, c'est ce qui est descendu du ciel pour nourrir le peuple hébreu, c'est un miracle. La manne, c'est le pain. Jésus va dire dans Jean chapitre 6 qu'il est cette manne descendue du ciel et qui est ce pain de vie. Il dit « je suis le pain de vie ». Cette manne cachée fait penser aussi à cette manne qui était à l'intérieur du coffre, à l'intérieur de l'arche. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait trois choses. Il y avait les tables des 10 commandements, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait de la manne, et qui était cachée à l'intérieur de l'arche. Alors, ça veut dire quoi ici, cette manne cachée? Ben, on pourrait simplement peut-être dire que ça pourrait connecter avec la parole. Jésus est la parole incarnée. La parole, c'est le pain, c'est un pain de vie. Et c'est une nourriture qui peut être cachée pour celui qui ne le connaît pas, mais quand le Seigneur le donne, ben, on revient au principe de révélation de l'Apocalypse, une révélation qui est donnée ici à celui qui vaincra, voilà ce qu'il aura. Et il lui donne aussi un caillou blanc. Il a dit, oh, j'ai pas besoin de caillou blanc, moi. Vous avez besoin d'un caillou blanc, vous? Un caillou jaune, ça fait l'affaire? C'est quoi ce caillou blanc? Et on comprend que ce caillou blanc, ben, doit faire référence à quelque chose, du moins que l'église de Pergame, quand on lui parle d'un caillou blanc, l'église de Pergame comprend ce qui se passe. Nous, on ne comprend pas parce qu'on est un peu comme déconnecté de cette histoire-là, un petit peu comme si on écoutait la conversation de quelqu'un d'autre, et on dit, de quoi il parle là? Et ils ont l'air de se comprendre, mais nous, on ne comprend pas. Le caillou blanc fait certainement référence à un principe qu'il y avait de vote dans les assemblées officielles où pour voter, ben, à un moment donné, vous savez, si vous avez un parlement, par exemple, qui doit voter, eh bien, s'il faut voter oui, il faut voter non, eh bien, on mettait un caillou d'une couleur pour voter non et un caillou d'une autre couleur pour voter oui. Et quelque part ici, eh bien, ce caillou blanc, eh bien, vient parler d'un vote en notre faveur, quelque part. Et c'est prendre position pour nous. On pourrait le voir comme ça, du moins, moi, je le lis comme ça. Et évidemment, nous, on est toujours curieux. Quand on nous dit qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas savoir, on veut savoir ce que c'est. Quand on nous dit qu'il y a dessus écrit un nom nouveau et personne ne le connaît, on dit, attends, personne ne le connaît, c'est quoi? Vous voyez, quand le Seigneur nous dit qu'il y a un nom que personne ne connaît, nous, on veut savoir. Alors que volontairement, c'est nous dit que personne ne connaît ce nom nouveau. Un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. En d'autres termes, le nom qui est inscrit sur ce caillou est destiné à la personne qui le reçoit, parce que lui connaît ce nom-là, mais pas les autres. Et je ne vais pas vous dire ce qui a marqué sur ce caillou, puisque personne ne le connaît. C'est un peu comme ceux qui veulent savoir, vous savez, dans l'évangile, à un moment donné, Jésus est en train d'écrire quelque chose sur le sable, et puis on lui amène une femme pécheresse, et puis toutes sortes de gens se disent, mais qu'est-ce que Jésus était en train d'écrire sur le sable? Et il y a toutes sortes de théories. Il y en a qui disent qu'il était justement en train d'écrire les 10 commandements, tu ne commettras pas l'adultère, et voilà, on lui amène cette femme-là. Quelqu'un d'autre disait, non, peut-être qu'il était en train d'écrire. On ne sait pas, on ne sait pas. Et je pense qu'il faut être prudent et pas inventer des choses qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas ce que Jésus écrivait sur le sable, et de la même manière ici, on ne sait pas ce qu'est ce nom-là. Est-ce qu'il s'agit du nom de Jésus? Ben, on le connaît, le nom de Jésus. Non? Et ici, le message s'adresse à des chrétiens. Et s'ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas grand-chose. Je veux dire, si Jésus est celui qui marche au milieu des chandeliers, il est le berger de cette église et ils connaissent. Alors, connaître un nom nouveau, c'est peut-être connaître une nouvelle révélation de la personne. Vous savez qu'à cette époque-là, le nom représentait qui était la personne. Et quand on connaissait bien une personne, eh bien, son nom pouvait changer. Quand une personne changeait radicalement, eh bien, son nom changeait. On voit ça beaucoup dans l'Ancien Testament. La personne s'appelait, et même Jésus va dire par exemple, tu t'appelais Simon, maintenant tu t'appelles Pierre. Et Jésus change son nom. Parce qu'une rencontre avec Jésus a changé le nom de cet homme-là. Et de la même manière, le nom nouveau ici peut nous parler eh bien, d'une connaissance approfondie, différente, nouvelle, une révélation dans ce sens-là, eh bien, du nom qui est écrit là-dessus. Alors, est-ce que c'est une nouvelle révélation de Jésus? Pourquoi pas? Ou est-ce que c'est une nouvelle révélation de la part de celui qui reçoit le concernant? Pourquoi pas aussi? Bref, on n'en sait rien. Alors, soyons prudents là-dessus. Moi, personnellement, je ne vais pas passer mon temps à dire des choses que je ne sais pas. Non? On pourrait, hein, si vous voulez, je peux continuer à parler pendant 20 minutes de ce que je ne sais pas, mais on tourne en rond et on n'arrive pas. À un moment donné, il faut accepter que personne ne le sait, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc si un jour vous recevez un caillou blanc, et bien vous comprendrez de quoi il s'agit. Non. La lettre suivante, c'est la lettre à l'église de Thyatire. Et il est dit à cette lettre-là voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Donc, vous voyez que et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. À chaque fois, ça vient faire référence à la vision qu'on avait déjà eue dans le chapitre premier de l'Apocalypse. Hein, pour qu'on connecte bien, c'est de Jésus qu'il s'agit ici. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Ça ressemble un petit peu à ce qui était dit à Éphèse. Ta constance, tes dernières œuvres qui sont plus nombrables que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et on voit, là encore, que à Thyatire, tout comme à Pergame, le problème de manger des viandes sacrifiées aux idoles est constant. C'est aussi bien vrai à Pergame qu'à Thyatire. Nous, aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans ce mode-là. Mais néanmoins, ici, on fait référence à cette femme, Jézabel, et ça nous fait penser à une certaine Jézabel de l'Ancien Testament, mais c'est pas elle, puisqu'elle est ici, elle n'est pas là-bas. On n'est pas à la même époque, là. Il n'y a pas une réincarnation de Jézabel, mais néanmoins, le fait qu'elle porte le même nom nous donne un petit peu une idée de son caractère. Quand on connaît le caractère de la Jézabel qui a voulu décapiter le prophète, on comprend que la Jézabel en question doit avoir un caractère aussi fort que celle-là. Mais ici, cette Jézabel, c'est celle, premièrement, qui existe à Thyatire à l'époque de Jean. Vous comprenez? Il y avait une femme qui mettait la panique dans cette église-là. Est-ce que ça veut dire que toutes les femmes mettent la panique dans toutes les églises? Non. On lit dans les Actes des Apôtres, Priscille qui ne met pas la panique, au contraire, elle remet de l'ordre. On voit d'autres ici. On fait référence à une femme précise qui met la panique dans cette église-là. Et ça ne veut pas dire que toutes les femmes mettent la panique. Une femme qui est prophétesse, qui se dit prophétesse, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui se disent prophétesse sont des fausses prophètes. Est-ce que vous me suivez? Mais celle-là, oui. Parce qu'il est question de celle-là, pas d'une autre. Il est question de la Jézabel de Thyatire ici, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Et là encore, soyons prudents et ne faites pas dire au texte qu'il n'a pas dit. Le texte dit que cette femme qui se dit prophétesse est une calamité alors qu'elle enseigne et séduit faussement les serviteurs. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui prophétisent disent des âneries. Vous me suivez? Parce que des fois, on lit des textes, puis comme c'est dans l'Apocalypse, du coup, ça a une portée particulière. Ce genre de texte, s'il avait été dans le livre des Actes des Apôtres, on ne l'aurait pas lu de la même manière. Mais comme c'est dans l'Apocalypse, tout d'un coup, ça devient... c'est l'Apocalypse. Cette lettre-là s'écrit à Thyatire. Cette femme a un problème ici. Et cette femme qui enseigne, ici, c'est un problème. Est-ce que ça veut dire que toutes les femmes qui enseignent, c'est un problème? Dans les Actes des Apôtres, je reviens avec Priscille. Priscille enseigne à Apollos à marcher dans les voies de Dieu. Apollos connaît les voies de Dieu d'une manière excellente, mais il lui manquait encore un approfondissement. Et c'est Priscille et Aquila qui vont enseigner Apollos. Vous allez dire, ah, elle est avec son mari. Oui, elle est avec son mari. Mais vous avez noté que c'est Priscille et Aquila, et non pas Aquila et Priscille. Et dans le texte grec, ça a tout son importance. C'est pas Aquila et Priscille qui fait des gâteaux pendant qu'il enseigne, et c'est Priscille et Aquila. Donc c'est Priscille qui est, je vais me risquer à dire, qui est leader quelque part ici, mais qui n'est pas leader autonome, enfin autonome dans le sens indépendante, mais avec l'accord de son mari, et son mari est mêlé à cette affaire-là. Mais c'est elle qui est en premier. Et quand on lit dans les Actes des apôtres au niveau des équipes, par exemple, Barnabas et Paul, c'est Barnabas qui est en tête. Puis quand on lit Paul et Barnabas, c'est Paul qui est en tête. Et quand on lit Paul et Timothée, on comprend que c'est Paul qui est le chef et que c'est Timothée qui suit. Et donc, ce n'est pas parce qu'ici, il y a une femme, Jézabel, qui enseigne et met la panique dans l'Église, que toutes les femmes mettent la panique dans l'Église. Est-ce qu'il y a des femmes pour des ramènes ici? Ou alors toutes les femmes mettent la panique dans l'Église? Parce que malheureusement, quand on fait une lecture un peu trop rapide, eh bien, on a tendance à couper les coins ronds et à faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Le texte ici est là pour reprendre le problème d'une femme dans une ville pour une situation précise. Et on ne fait pas d'un cas particulier un cas général. De la même manière, dans les textes de l'apôtre Paul, dans ses épîtres, il y a des fois, il va reprendre une situation particulière. Ça ne veut pas dire que ça devient le cas général. Alors, il faut qu'on avance quand même un petit peu. Et il est dit, bon, ben, elle fait tellement de dégâts, celle-là, que je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais jeter sur son lit, et l'a envoyé une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. On voit que même pour la pire des pires, il y a une possibilité de repentance. Et même pour ceux qui commettent l'adultère avec elle, il y a encore une possibilité de repentance. Finalement, dans ce texte-là, on devrait lire l'espoir que c'est jamais perdu, et que par la repentance, on peut retrouver le chemin. Et que quand il dit « j'ai quelque chose contre toi, mais si tu te repens, ça va tout changer ». Et ce message-là est toujours vrai aujourd'hui encore. Par la repentance, bien des choses peuvent changer. Je vais envoyer une grande tribulation, et là, attention, c'est pas parce qu'on a le mot « grande tribulation » que ça fait référence à une autre grande tribulation ailleurs. Hein? Il faut faire attention aux connexions ici. Grande tribulation, ça veut dire du grand trouble, point final. C'est juste un mot, hein, tribulation. Ce n'est pas ici un événement particulier, c'est un mot. C'est un trouble, c'est du problème, c'est des je sais pas, les synonymes qu'on pourrait donner à tribulation ici. C'est des épreuves, c'est de la difficulté. Mais ça ne veut pas dire que ça connecte ici avec ce que, un peu plus tard dans l'Apocalypse, il sera question d'une autre grande tribulation. Et ce n'est pas la même ici. Ici, il s'agit d'un temps où la vis va être serrée contre cette femme-là. On va lui serrer la vis, si on peut dire ça comme ça, et ça va être agréable pour elle, si on résume les choses simplement. Je suis, donc, il dit, je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Donc on comprend ici que pour Dieu, ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et que peut-être cette femme qui se dit prophétesse en épate plusieurs en apparence, mais lui, il sait qu'à l'intérieur, ça ne marche pas. Et ça, ça peut marcher pour nous aujourd'hui encore. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Donc il y avait dans cette église-là des gens qui ne suivaient pas cette doctrine, et tant mieux. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer. » Et là, ça nous rapporte à ce qui était dit concernant les prophéties messianiques, concernant ce que Jésus lui-même va faire. Et on voit qu'on règne avec lui ici, en tout cas, la promesse est faite dans ce sens-là. « Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Je lui donnerai l'étoile du matin. Maintenant, si vous me demandez, attendez, l'étoile du matin. Concrètement parlant, ça veut dire quoi ici? Je ne sais pas. Vous avez une idée, vous? En tout cas, s'il le donne, ça doit être quelque chose de bon. Jésus lui-même a été appelé l'étoile du matin. Et qu'est-ce qu'a ces particularités de l'étoile du matin? C'est que elle continue, comment dire, elle brille alors que toutes les autres ont cessé de briller. En fait, c'est une étoile qui monte le chemin, qui monte la voie. Et concrètement parlant, c'est quoi cette étoile du matin? On ne peut pas dire et affirmer c'est ça et c'est pas autre chose. Mais ça nous parle d'un don, donc quelque chose qui est bon et qui certainement est... Alors si on connecte ça à la fin du chapitre 1er, au début, les étoiles qui sont dans la main, ben, ce sont les messagers des épîtres ou les serviteurs des églises, peut-être aussi. Alors soit on le connecte dans ce sens-là en disant ben, ça peut être une étoile de ce type-là ou c'est un messager, peut-être. Ou alors d'aller dans un niveau plus universel et parler de cette étoile comme étant eh bien, un moyen de montrer la route, de diriger, et une étoile qui dirige un peu comme l'étoile qu'il y a eu lorsque Jésus est né. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux Églises. Au chapitre 3, on a encore une autre Église, c'est celle de Sardes. Il dit, voilà ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Donc, on reprend encore le thème qui était là. Je connais tes œuvres. Ce n'est pas la première fois qu'il est dit, je connais tes œuvres. Mais c'est comme si à chaque fois, Jésus n'est pas impressionné par les œuvres. Et aujourd'hui, nous, on a tendance à être impressionné par les œuvres. On dit, waouh, quel travail a été accompli, quelles œuvres. Et Jésus dit, je connais tes œuvres et ça ne m'impressionne pas. J'ai quelque chose contre toi. Il faudrait qu'on ait des oreilles pour entendre et qu'au travers de l'analyse de ces épîtres-là, je vous inviterai à les lire de manière plus approfondie, et bien de dire, ben, Seigneur, si tu connais mes œuvres et que tu n'es pas impressionné par mes œuvres, ben, je comprends parce que de toute façon, je n'ai pas fait grand-chose. Mais même à celui qui a fait grand-chose, le Seigneur n'est pas impressionné quand même. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la somme de nos œuvres, mais c'est notre fidélité, c'est notre consécration, c'est notre capacité à obéir à sa parole. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et malheureusement, c'est quelque chose qui peut être très moderne aussi. Qu'aujourd'hui, il y en ait qui passent pour être vivants et qui sont morts. Est-ce que ça se pourrait que dans notre Église, il y en ait qui passe pour être vivant, on dit, waouh, quelles œuvres, quel homme, quelle femme. Ça, c'est quelqu'un de bien. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est une femme de Dieu. Et le Seigneur dit, peut-être que les autres disent ça, mais moi, je connais tes œuvres, et je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. À l'intérieur de toi, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il y en a qui sont vivants, qui passent pour être vivants et qui sont morts, et il y en a d'autres qui sont sur le point de mourir. Ça ne va pas fort. Hein? Mais il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a cet appel à se rappeler du début. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi du commencement. Rappelle-toi quand tu as découvert Jésus. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Et ce principe-là devrait nous marquer pour nous aujourd'hui encore, lorsque on passe par des temps difficiles, de se rappeler, mais comment je suis devenu chrétien? C'est quoi ce qui s'est passé au début? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit dans ces premiers jours-là? Souviens-toi de ces choses. Garde-la, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et ça reprend le message qu'on a dans l'Évangile. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Là, c'est propre à cette église-là. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra, donc on voit que c'est une constance dans chacune de ces épîtres, il est question de victoire et de vaincre, et tant mieux, on parle d'église victorieuse ces temps-ci. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Là, ça vaut la peine d'ouvrir une parenthèse là-dessus. On voit qu'il y a des avertissements qui sont donnés. À celui qui se repent, celui qui se vaincra, je n'enlèverai pas le chandelier. Et là, il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Pour effacer le nom inscrit dans le livre de vie, il fallait déjà qu'il y soit. Est-ce que vous me suivez? Et je sais que certains de nos frères et dans d'autres mouvements évangéliques n'auront pas forcément la même position. Mais ici, moi, je lis clairement que quelqu'un peut avoir son nom inscrit dans le livre de vie et qu'à un moment donné, il est effacé. Et quand quelqu'un dit « Non, non, mais si quelqu'un marche plus dans les voies de Dieu, c'est qu'il n'était pas vraiment sauvé. Hein? » On peut des fois entendre ce genre de choses. Si quelqu'un abandonne la foi ou si quelqu'un quitte l'Église, c'est qu'il n'était pas vraiment sauvé. Là, c'est quelqu'un dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce qu'on est sauvé quand on a notre nom inscrit dans le livre de vie? Ça veut dire quelque chose? C'est important que notre nom soit inscrit dans le livre de vie? Mais ton nom inscrit dans le livre de vie, il peut y avoir une efface. Il peut être effacé. Ce n'est pas garanti. Il y a ici des conditions. Et si tu ne restes pas dans ces conditions, notez bien que ce n'est pas des conditions qu'on atteint tous les jours. Hein. Je veux dire, c'est quand même assez grave là, ce qui se passe ici. Mais néanmoins, eh bien, il faut qu'on soit attentif aux avertissements qui sont donnés à ces différentes églises afin de vaincre et de ne pas avoir le chandelier qui soit ôté ou le nom qui soit effacé du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Ça nous rappelle ce que Jésus avait dit dans l'Évangile. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Enfin, une avant-dernière église, celle de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voilà ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Donc, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. La clé de David, c'est la clé de la cité de David. David, c'est ce roi par excellence. Je connais tes œuvres, encore, je connais tes œuvres et voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Et quelque part, il est en train de dire, parmi vos pires adversaires, hein, parce que ceux qui sont de la synagogue de Satan, on a vu dans une autre église qu'il les persécutait, il les mettait à mort. Et là, parmi ceux-là, il y en a qui vont prosterner, qui vont se repentir quelque part. Et nous, des fois, on considère nos adversaires et on aimerait les voir mourir, on veut les voir anéantir, plutôt que de les voir changer, transformer. Ça nous rappelle ce que le disait le prophète, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente. Et c'est ce qui se passe tout au long de ces lettres-là. Les avertissements n'ont pas pour but de détruire, de casser, de faire des menaces apocalyptiques en disant « Waouh, c'est terrible !» Au contraire, il y a de l'espérance dans chacune de ces épîtres en disant « Ce que tu as, c'est grave, mais ça peut changer. » La situation dans laquelle tu es est catastrophique, mais si tu te repens, tout peut changer. Et tu vaincras, tu seras un vainqueur, tu vas conquérir et je te donnerai. Et voilà les promesses qui accompagnent celui qui se repent et celui qui vaincra. Quelque part, ça doit nous encourager, ces épîtres-là. D'une certaine manière, ça peut nous faire peur en disant ouais, « j'aimerais pas être de ce nombre-là, et tant mieux ». Ça s'appelle la crainte de l'Éternel. C'est respectueux de dire hey, « je veux pas l'offenser, je veux pas que le Seigneur ait quelque chose contre moi ». Des fois, on a trop tendance à voir Jésus comme notre ami, et il l'est. Mais notre ami Chummy Chummy, qui du coup dit « Oh, Jésus, c'est mon ami, de toute façon, il n'aura jamais rien contre moi. Ben, » on voit que dans ces épîtres-là, il dit « J'ai des choses contre toi. Hein. » Est-ce que ça se pourrait que Jésus ait quelque chose contre nous, contre vous? Si c'est le cas, si ça nous fait réfléchir, tant mieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Tu peux te repentir. Et ta vie peut être transformée. Et du coup, Jésus n'aura plus quelque chose contre toi, mais il sera de ton bord. Alors, on revient à Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Ça, c'est un message qu'on trouve tout au long de l'Apocalypse. Et là, pour encourager l'église de Philadelphie qui passe par des moments difficiles, Jésus l'encourage en disant « Je viens bientôt ». Ça a une fin. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. » De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et il en est question à la fin de l'Apocalypse, on aura l'occasion d'en reparler, d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et la dernière des épîtres, eh bien c'est celle à Laodicée, écrit de l'ange à Laodicée, voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable principe de la création de Dieu, donc ça c'est Jésus, je connais tes œuvres encore. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et on voit que c'est quelque chose qui revient dans chacune des épîtres. Je connais tes œuvres, je sais exactement ce que tu fais, mais il y a un problème. Et le problème, c'est que tu ne sais même pas qu'il y a un problème. Et si Jésus met le doigt sur le problème, ce n'est pas pour entasser, accuser, condamner, mais pour corriger le problème. Comment est-ce qu'on pourrait corriger un problème dont on n'a même pas conscience? Et là, à Laodicée, ils disent qu'ils sont riches alors qu'ils sont pauvres. Ils disent que tout va bien alors que tout va mal. Ils disent, nous, on n'a besoin de rien alors qu'ils ont besoin de tout. Et Jésus s'adresse à eux au travers de cette épître pour dire « Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu, mais ça peut changer. Je te conseille d'acheter de moi, et c'est auprès de Jésus qu'il y a la solution. Eh bien, cet or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Je n'ai pas le temps de développer les points là, mais des vêtements blancs, mais je crois que je l'ai fait dans la série, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » On est ici à la conclusion un petit peu de ces quatre, enfin de ces sept épîtres, et Jésus dit, si je reprends, si je châtie, c'est parce que je vous aime. C'est pour votre bien. Je reprends, je châtie ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Et on pourrait presque dire aussi, mets du zèle à la repentance. Repens-toi, pas du bout des lèvres, là, mais de tout ton cœur, mais mets-y toute ton âme, mets-y toute ta force. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et on aime beaucoup ce verset-là dans des réunions qu'on appelle d'évangélisation, hein, des réunions où on dit à quelqu'un qui n'est pas chrétien, le Seigneur est à la porte de ton cœur, il frappe, il veut rentrer dans ta vie. Mais notez bien ici que c'est une lettre à une église. Et il y a une anomalie ici. Celui qui marche au milieu des chandeliers est en train de dire, ils m'ont mis dehors. Je suis même plus au milieu de l'église. Alors que l'église chrétienne, et le nom le dit, eh bien, c'est Christ qui est au centre, alors que l'église, c'est là où Jésus doit être à la place centrale, il est dehors. Et ils ne le savent pas. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et ce serait triste que dans une église et que dans notre vie en particulier, eh bien, on ait un langage, on ait un discours, on se dise, moi je suis chrétien, moi je suis un homme de Dieu, moi ceci, regarde mes œuvres, et tu ne sais même pas que Jésus n'est plus là. Tu parles tellement que tu n'as même pas fait attention qu'il ne parlait plus, parce qu'il n'était plus là, et qu'il frappe à la porte en disant, tu m'as mis dehors, mais je ne suis pas fâché, je ne suis pas vexé, et je ne m'en vais pas, mais je veux revenir. Mais je ne peux pas revenir si tu ne me donnes pas ton accord. Je tords le bras de personne, mais je frappe à la porte, et c'est à celui qui entend d'ouvrir la porte et de laisser Jésus rentrer. Maintenant, ça ne veut pas dire que Jésus est à la porte du cœur de tous ceux qui sont ici dans ce lieu, mais ça peut arriver. Du moins, qu'on soit attentif, qu'on fasse attention et qu'on vérifie, hein, des fois de dire, est-ce qu'il est toujours là? Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas entendu là. Si tu ne l'as pas entendu, c'est soit parce que tu parles trop. Écoute. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois la nuit de vérifier ce que la personne avec qui je suis d'habitude est toujours là. L'impression. Hein. Et s'il se retrouve à la porte, là, il y a un problème. Mais qu'on puisse dire, Seigneur, je veux rester dans cette communion, cette intimité avec toi. Je ne veux pas te mettre dehors. Et si, par malheur, il était dehors, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous aime. Et qu'il ne dit pas, si tu ne veux pas de moi cette valeur, tant pis pour toi. Mais il est là et il frappe. Et il dit, tu m'as mis dehors, mais je veux rentrer. Encore. Souper avec toi. Comprenez que souper avec quelqu'un, en latin, c'est communier. Hein, communier, ça veut dire manger avec quelqu'un. Et Jésus veut avoir cette communion avec nous, cette intimité, cette proximité. Je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors en conclusion, chapitre 2, chapitre 3, finalement ce sont peut-être les passages de l'Apocalypse les moins compliqués. Hein? À part peut-être quelques allusions avec ce caillou blanc ou cette étoile du matin, mais en dehors de ces quelque chose qui sont assez techniques, où on ne sait pas exactement ce que ça peut représenter, on comprend le principe et on comprend tout ce qui est dit dans la plupart de ces épîtres-là. On comprend que chaque ville passait par des moments particuliers et que Jésus adresse, qu'il reprend, et qu'il y a un principe auquel nous devons être attentifs. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, on a quelque chose à entendre, nous aussi. Et qu'on se dise, peut-être que des fois je ressemble à la première, des fois je ressemble à la deuxième, des fois à la troisième, des fois à la septième. Mais en toute chose, il nous faut comprendre qu'il reprend celui qu'il aime. Et que si Jésus envoie ce message à ces sept églises, c'est pour les encourager. C'est pour les changer, c'est pour les transformer. Et on comprend que le message qui est donné ici est un message comme particulier, mais que tout l'Apocalypse, d'une manière générale, parce qu'on va voir que Jean a été sollicité pour écrire et mettre la vision, les choses qu'il a vues par écrit, eh bien, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour tous. Et c'est aussi pour ces sept églises-là. Et que quelque part, ici, c'est la partie un petit peu personnelle, le message personnel qui est donné à chacune de ces sept églises dans leur cas spécifique, mais que l'ensemble de l'Épître, l'ensemble de l'Apocalypse, eh bien, va être le message un petit peu comme général qui va être donné à toutes les églises. Et le message qui est donné à toutes les églises est un message d'encouragement. On a déjà eu une petite bride avec cet encouragement que Jésus donne à l'église de Philadelphie en disant « Voici, je viens, il vient ». Et ça, c'est une parole d'encouragement. « Il revient bientôt ». Et c'est un message qu'on va retrouver tout au long de l'Apocalypse. Bonne nouvelle, il revient. Il revient et lorsqu'il dit à chaque fois « à celui qui vaincra », eh bien, le chrétien peut se dire « Mais comment ça marche là? Comment est-ce que je peux vaincre ?» Eh bien, on voit l'exemple ensuite, au travers des autres chapitres de l'Apocalypse, eh bien, d'un Seigneur qui va vaincre, qui va terrasser l'adversaire, un Seigneur qui va être victorieux, triomphant, et on comprend que au travers de sa victoire, nous avons la victoire. Et que par sa vie, de la même manière que par sa résurrection, nous avons la résurrection, que par sa vie, nous avons la vie, eh bien, que par les principes de victoire de l'agneau de Dieu dans l'Apocalypse, eh bien, nous avons cette capacité, cette assurance, eh bien, de pouvoir rentrer dans ces paroles qui sont adressées aux sept églises, à celui qui vaincra. On comprend que ce que le Seigneur nous demande n'est pas quelque chose d'inaccessible. Il ne dit pas à celui qui vaincra, mais personne ne pourra y arriver. À celui qui vaincra, parce que c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais il nous aide à le faire. Et il nous dit, je suis avec vous, je suis avec toi, et je te donne cette victoire-là. Et la semaine prochaine, on sera au chapitre 4, après le chapitre 4, peut-être certainement le chapitre 5 aussi, le chapitre 4 et le chapitre 5. Et j'avais déjà fait allusion la semaine passée à cela. Dès le départ, hormis donc ces sept épîtres qui sont envoyées à ces sept églises, dès le départ, ça commence avec ce chapitre 4, c'est-à-dire la gloire, le trône de Dieu. L'Apocalypse ne commence pas avec la mauvaise nouvelle. Voilà les catastrophes, les malheurs, les fléaux qui vont vous tomber dessus. Ça commence avec ce voile qui est levé sur ces choses glorieuses, formidables, extraordinaires, des choses magnifiques, des choses grandes et puis glorieuses. Et le chapitre 4 nous montre toutes ces choses. Et ça commence par ça. Et si on avait les sept églises auparavant, c'est comme si maintenant Jean, avec son chapitre 4, donc avec la suite un petit peu du message, dit voilà le message spécifique qui est adressé à chacun, mais bonne nouvelle, on va regarder ce qui se passe au ciel. On va regarder la gloire, la puissance, la magnificence, le triomphe de l'agneau de Dieu qui est à la droite du trône de Dieu. Et ça, c'est un message qui réconforte. C'est un message qui encourage. C'est un message qui fait du bien. L'Apocalypse n'est pas un message qui déprime. C'est un message qui revigore. C'est un message qui encourage. C'est un message qui fortifie. Et si vous n'en êtes pas convaincu, relisez le chapitre 4, le chapitre 5. Et on en parlera plus particulièrement dimanche prochain. Et pour ceux qui disent, ben, j'aurais bien voulu aller plus en détail dans chacune de ces épîtres, eh bien, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait dans une série il y a quelques années où on a passé une heure sur chacune des épîtres. Vous retrouverez ça assez facilement sur le site de l'église de Pentecôte de Drummondville. Est-ce que c'est clair comme ça? Alléluia.